Bonsoir. Mise en place des mandataires des entreprises publiques, le décret a été publié depuis mercredi dernier. 28 entreprises publiques changent ainsi des gestionnaires. Pendant près d'une année, les sujets sur le partage des entreprises de l'État étaient sur la table des négociations politiques qui ont même menacé l'équilibre de la transition. Quelle perspective ce partage ouvre-t-il pour la suite de la transition? Quelle analyse faire de ce partage à moins d'une année de la fin? Dialogue entre Congolais, dans sa tribune de presse de ce vendredi, reçoit Claude Kamangamutande, directeur de publication à l'agence Congo Actualité, Adélard Oboulokoès, rédacteur en chef d'Intercongo Média et membre de Sifia International, une agence de presse. Au téléphone, nous recevons Kasongo Mwema, Yamba Yamba. Nos invités à cette tribune analyseront aussi la fin de l'opération d'enrôlement et d'identification à Kinshasa intervenue depuis lundi dernier. Mise en place de mandataires des entreprises, je vous le disais tout à l'heure, on note sur la liste par exemple l'entrée des députés tels que Bahati, Lukwebo et Moïse Nyarugabo à la SENAS, le retour des anciens acteurs politiques, le cas de Fundu Kota et Bofasa Djema, les hommes de médias aussi ont été servis, par exemple la nomination de Michel Ladi Louya qui est éditeur du journal Le Palmarès, il devient membre gestionnaire de la Cohydro, et le maintien de Emmanuel Kipolongo Mukambuloa au poste de l'administrateur directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Claude Kamangamutande, vous êtes ici à Kinshasa, comment vous analysez, comment vous avez vu cette mise en place des entreprises publiques de l'État?
Voilà. À mon analyse et à ce que je vois, ça me permet déjà d'ajouter un élément à ce que vous faisiez remarquer, c'est-à-dire que au nombre de ces 28 entreprises publiques, il y a également des dames, des femmes qui entrent dans ce partage des choses de responsabilité. Autre chose, c'est quoi? C'est qu'on réalise qu'on reste dans les termes de San City, parce que tout ce qui se fait avait donc été justement prévu à San City. Est-ce qu'on reste dans l'esprit de San City? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui et c'est ce qu'on relève dans les journaux qui sont sortis ce matin dans la capitale pour faire remarquer que le problème des compétences, l'expérience n'a pas toujours été considéré pour arriver à la désignation de ces personnes dont certains quittent le Parlement pour justement embrasser ses fonctions et dont d'autres aussi viennent d'autres horizons, mais on retrouve également dans tout ceci un esprit qui avait également eu à prévaloir à l'époque de la conférence nationale de l'époque, c'est-à-dire ce partage équitable et équilibré. C'est comme si on prenait un gâteau, on le découpait chacun à un morceau. Mais la question que l'on continuera à se poser, c'est celle de savoir si ça va résoudre tous les problèmes qu'il y a en ce moment-ci. Parce que à un problème de gestion, on a donné une solution politique. Est-ce que ces désignations vont permettre de résoudre tous les problèmes de mauvaise gestion qu'on a eu à remarquer et que la presse avait aussi eu à mettre au devant de la scène les derniers jours?
Mais est-ce que ce partage politique, est-ce que ça ne résout pas aussi un vrai problème politique qui est de maintenir l'équilibre des composantes et des entités qui gèrent justement cette période?
L'équilibre des composantes et entités qui gèrent cette période est-il qu'en apposant sa signature, je crois, au bas du document qui a donc annoncé la désignation de cette personnalité, le président de la République a, je crois, eu à résoudre un problème. C'est-à-dire, nous savons tous qu'on est parti d'échanges, de discussions, de débats à travers les médias, entre les politiques et les autres personnalités qui sont dans la transition actuelle, et qu'on y arrive. On peut croire qu'ils se sont mis d'accord et que ça permet d'avancer. Mais s'être mis d'accord de quelle manière? Tout le partage qui se fait, il faut le faire remarquer, se fait entre ceux qui ont été à Sainte-Cité. Mais à côté de cela, il faut également faire remarquer que ceux qui sont sortis des institutions, qui ont estimé qu'ils n'étaient pas dans leur intérêt de s'engager dans tout ce qui se faisait actuellement, restent à l'écart. Donc c'est tout normal que cela se passe tel que ça s'est passé jusque-là.
Adela Rabou-Lopez, quelle est votre analyse par rapport justement à cette mise en place intervenue depuis mercredi dernier?
Oui, moi, c'est par rapport au but. Quel est le but de ce partage, comme on le dit? Bon, moi, je n'aime pas appeler ça partage, mais là, je suis obligé de l'appeler partage depuis hier, parce qu'il s'agit effectivement d'un partage. Pour moi, le but de ce partage devait être double. Ou on se pose la question de savoir, est-ce que c'est pour relever ces entreprises qu'on les met ainsi entre les mains d'autres personnes, ou c'est pour faire le conformisme, à se conformer à l'esprit de Sand City. Je me dis maintenant, on a fait le conformisme, c'est-à-dire qu'on a donné cette entreprise au premier venu, aux hommes politiques, pour les contenter.
Est-ce que c'est au fait un conformisme ou un respect des engagements pris 2 ans plus tôt à Sand City par exemple?
Je l'appelle conformisme parce qu'il y a des gens qui ont signé l'accord global et inclusif, mais n'étant pas membres des institutions actuelles, ils ne prennent pas part non plus aux entreprises. Mais de quel droit on doit les exclure parce que l'accord était global et inclusif? Ils ont signé ces gens-là. Même s'ils ne prennent pas part aux institutions politiques, disons, du pays, non plus aux institutions d'appui à la démocratie, mais dans les entreprises, on devrait pouvoir mettre ces gens parce qu'ils ont également signé et qu'il y a parmi eux des gens qui sont compétents, qui peuvent diriger ces entreprises-là. Et vous le savez, vous êtes à Kinshasa depuis moi, avec moi plutôt depuis une année, il y a une polémique même au sein des gens qui ont signé l'accord global et inclusif, ils ne s'entendaient pas très bien sur les termes. Est-ce qu'il fallait partager les entreprises seulement entre ceux qui sont dans les institutions ou il fallait élargir? D'autres ont pensé qu'étant un patrimoine de l'État, n'est-ce pas? Il fallait élargir à d'autres qui n'étaient pas dans les institutions. Mais là, je crois, ils se sont conformés à ce qui se fait. Le consensus a été obtenu seulement par rapport à ceux qui sont dans les institutions et d'autres qui ne sont pas là, qui ont signé, restent toujours en dehors. Et je me dis que ça a résolu un problème, peut-être, de ceux qui sont là-dedans, mais ça n'a pas résolu le problème global, même sur le plan politique, parce qu'il existe un malaise politique.
En fait, si vous parlez de problèmes politiques, quel problème politique précisément ce partage des entreprises n'a pas réglé? Si on sait qu'il y a déjà l'équilibre qui est établi parmi tous, en tout cas les signataires de l'accord global
et
inclusif.
Il n'y a pas d'équilibre parce que vous le savez comme moi, il y a des gens qui ont signé cet accord global et inclusif et qui ne sont pas dans les institutions et qui ont réclamé depuis longtemps que ceux qui sont là puissent gérer un peu mieux. Donc on pouvait les mettre, on pouvait les associer à cette gestion si cela a pour but d'établir un équilibre, pour que toutes les voix discordantes parmi ceux qui ont signé soient également partie prenante. Parce que là, on n'a pas résolu ce problème. Vous connaissez le débat chez nous, il y a des gens qui ont signé et qui ne sont pas membres des institutions. Ils vont continuer à rester en dehors du processus, n'est-ce pas? Et ça résout quoi? Moi, je ne vois pas ce que ça résout.
Kassongo Mouema Yamba Yamba, vous intervenez dans cette tribune de presse depuis Paris, en France. Qu'est-ce que vous pensez justement de la mise en place des entreprises publiques de l'État? Mise en place intervenue mercredi dernier.
Mais écoutez, ce que je peux en dire d'entrée de jeu, c'est que bon, je constate que quelque part au moins, on s'est mis d'accord. Je crois que c'est déjà ça. Encore que, comme le disait le précédent intervenant, Abdelha Bouboulokwes, on a réglé un problème, mais j'ai l'impression qu'on va en avoir d'autres, parce que même plusieurs autres. Parce que je pense sincèrement qu'on ne se partage pas les entreprises. Bon, quelque part, il ne faut pas être naïf, les seigneurs de guerre d'hier obtiennent aujourd'hui un paquet supplémentaire. Et ma réflexion, c'est que nous nous engageons dans un processus extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux parce que déjà, les institutions financières internationales avaient mis en garde les hommes politiques congolais sur ce mode de désignation des responsables du secteur économique. On ne nomme pas un chef d'entreprise pour le plaisir. On ne nomme pas un chef d'entreprise pour se faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. On a vu où nous avait conduit la politique de zaïrianisation, où on allait prendre un cuisinier pour le nommer chef d'entreprise de je ne sais pas quoi, on allait prendre un neveu, un parent, un copain, un ami, un membre de son obédience pour en faire du jour au lendemain le patron d'une entreprise. On a vu où ça nous a mené. Mais encore une fois, les Congolais ont la mémoire très très courte. Et là, Les composantes ont tenté de faire respecter les engagements qu'ils avaient pris à Sun City et à Pretoria, bien leur en face. Mais je dis que ces composantes avaient la lourde responsabilité de choisir les hommes qu'il fallait à la place qu'il fallait. Le problème, ce n'était pas de ne pas mettre X ou Y à tel endroit, même si cette personne-là devait appartenir à la composante Y. Je crois qu'à partir du moment où il vous appartient de nommer un chef d'entreprise, vous nommez une personne qui est compétente. J'ai parcouru la liste, je ne vais pas faire d'analyse sur les personnes. Je connais beaucoup de personnes qui sont entrées aujourd'hui dans les entreprises de l'État. Je les connais pour les avoir côtoyées peut-être sur les bancs de l'université, pour les avoir côtoyées dans les rues de Kinshasa. Bon, écoutez, faisons pas de procès d'intention, on verra comment ils vont se révéler comme gestionnaires, mais j'ai peur que la logique de l'équilibre, parce que l'équilibre politique n'est pas synonyme de réussite économique. Et ça, je trouve dommage que les composantes, les secteurs, les composantes qui ont désigné des responsables économiques à la tête des entreprises aient plutôt joué la carte politique, à savoir ce qu'ils pourraient tirer de façon immédiate de la nomination d'un copain, d'un homme du sérail au sein d'une entreprise dans le cadre de la perspective de la campagne électorale. Et ça, malheureusement, je crois que c'est une politique de courte vue et que ça va avoir de terribles conséquences.
Vous venez d'entendre ici au studio de Radio Capi les interventions de Claude Kananga et de Adelard Boloques. Eux, ils pensent que, au fait, la gestion, la politique de gestion économique du pays a été sacrifiée sur l'autel de considérations politiques. Est-ce que c'est pas au nom, justement, de ça que l'équilibre même et la paix du pays est assurée actuellement?
Oui, mais la paix du pays est assurée au prix du respect de l'équilibre. D'accord. Mais je dis aujourd'hui, le RCD, le MLC, le PPRD, toutes les autres composantes, à partir du moment où on leur demande de désigner des mandataires à la tête des entreprises de l'État, pouvaient désigner des personnes compétentes. Ça signifie que quelqu'un du PPRD ou le PPRD aurait pu désigner à la tête d'une entreprise X ou Y quelqu'un qui peut-être n'est pas d'obédience PPRD, mais qui est reconnu comme gestionnaire des entreprises. Par exemple, quelqu'un qui a une entreprise privée, on a vu, on a des preuves de sa compétence, on le nomme alors qu'il n'a pas de carte politique. Parce que ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est de voir demain un PDG de la Gécamines, un PDG de la SNCC, un PDG de l'ACP, un PDG de tout ce que vous voulez, de la compagnie d'aviation, on va le pointer comme étant le PDG de PPRD, de RCD. Et je crois que ça, c'est dangereux. Les entreprises auraient dû échapper à ce type d'étiquetage.
On rentre ici au studio, Claude Kananga. Comment maintenant vous pensez de cette analyse, de cette mise en place des entreprises publiques à une année de la fin de la transition?
Voilà, il y a déjà moi qui fait remarquer ici que le processus est en train de s'engager sur une voie extrêmement dangereuse. Une voie extrêmement dangereuse, et quand il le dit, ça nous rappelle le fait que voilà 2 ans que nous sommes engagés dans ce processus. Il y aurait eu élection, tel qu'on le disait, en se mettant dans les termes de ce que disait la constitution de la transition, il y aurait eu élection au mois de juin dernier et mise en place terminée avec certains tons dans ce qui était prévu, c'est-à-dire sans responsable dans les entreprises, sans responsable dans la diplomatie, dans la petite territoriale, et on se poserait tout un tas de questions. Quand on reprend ce problème, à certains moments, on fait comme si on tournait juste autour du pot, parce que tout le monde sait, et ça se dit, ça se raconte partout. On sait que ces gens qui vont dans ces entreprises, le potentiel faisait remarquer ce matin qu'ils y vont au nom du militantisme. Et militantisme ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui vont aller se servir dans les caisses de l'État pour renflouer leur parti et organiser les élections, comme tout Congolais le justement remarque. On dit ici qu'on veut donc régler un problème de gestion à partir de ce partage, mais on enjambe le fait que derrière il y a tout un contentieux. Il y a des gestionnaires de ces entreprises qui venaient d'être sanctionnés il y a quelques mois. On n'a pas résolu le problème. On ne sait pas ce qui avait donc été à la base de leur suspension, de la mise à l'écart dont ils ont été l'objet. Mais on continue. On en choisit d'autres. On redistribue les cartes. On dit bon, voilà, c'est bon, on y est. On continue. Chacun a son morceau de gâteau et ça va aller
Et
comme
donc vous
ça.
pensez qu'on va continuer dans cette culture d'impunité? Et les gens vont se remplir la poche en prévision d'élections.
Se redistribuer les entreprises de l'État tel que ça se fait. L'objectif, moi je crois que le premier ne doit pas être de maintenir une sorte de stabilité, de consensus. Le Congo n'appartient pas qu'à ces entités et ses composantes qui ont été donc à Sainte-Cité. Le Congo est une copropriété de 60 millions de Congolais et ce sont des entreprises publiques et ces personnes qui vont gérer ces entreprises. Ils vont pour assurer une sorte de mieux-être à ces 60 millions de Congolais. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas des entreprises privées qui appartiennent au PPRD, au RCD ou à je sais pas quoi. On va vers une pente extrêmement dangereuse. Je reprends encore ce terme que la communauté internationale avait donc également justement évoqué. Extrêmement dangereux, ça veut dire que est-ce que nous allons, comme ça, arriver à l'organisation des élections dans les termes? Puisque c'est ça la grande interrogation. Est-ce que maintenant, telles que les choses sont équarries, telles que les choses sont placées, ça nous permettra d'arriver à mettre cette fois-ci un terme à tout ce désordre, tout ce cafouillage dans lequel on est installé?
Je vous pose la même question. Quelle est votre analyse de cette mise en place à une année de la fin de la transition?
Ok, je crois que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient de se faire, parce que lorsque les gens se mettent ensemble et arrivent à un compromis pour pouvoir brader le patrimoine national, on appelle ce compromis une compromission. À une année, à pratiquement 11 mois ou à 10 mois des élections, il s'agit simplement d'une compromission. Je l'ai dit au départ ici. Si le but c'était de garder un équilibre politique, il fallait également avoir un deuxième but, c'est de garder ou de faire une certaine pérennité économique. Parce que l'économie et la politique ne marchent pas toujours sur les mêmes principes. L'économie c'est une chose, la politique c'est autre chose. À une année des élections, qu'est-ce que nous devons attendre de ces entreprises? Le temps que les nouveaux mandataires entrent les entreprises. Entrent dans les entreprises, prennent en charge ce qu'ils doivent prendre, gèrent le passé de ces entreprises et aillent de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un mandataire public en 10 mois? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Parce que ceux qui venaient d'être là dans cette entreprise, certains qui ont été accusés d'avoir détourné, le gouvernement, malgré sa globalité et malgré le compromis qu'ils ont ensemble, ne sont pas encore parvenus à nous expliquer qu'est-ce que ces gens-là ont pu faire dans les entreprises. Mais maintenant qu'ils se sont plaints, certaines entreprises, certaines composantes, disons, il n'y a que le PPRD qui gère parce qu'ils sont en train
Mais en fait, ça,
d'évoluer.
c'était pas légitime si on sait que ce retard-là pris pour mettre en place le nouveau mandataire ne profitait qu'au seul PPRD, parce que il était le seul à avoir des ADG, des ADGA qui siègent depuis Kinshasa.
D'accord, mais Claude Kamanga l'a dit, mais on serait parti aux élections sans qu'il y ait de nouveaux mandataires. Mais maintenant qu'on les met en place, ça veut dire que les autres disent également, nous aussi, on va dans le but d'avoir les moyens d'en profiter pour pouvoir aller aux élections. Et donc, je me dis, à 10 mois, l'objectif n'est que politique, n'est qu'électoral, parce que, en voyant les entreprises, je ne vais pas les citer, je cite une seule entreprise, le CEC, je crois, le Centre d'évaluation et d'expertise, vous n'allez pas mettre là-bas le tout premier venu. Il y a quand même des entreprises qui sont techniques. Qu'est-ce que les composantes et entités devraient faire? Aller au sein de ces entreprises-là, recruter des membres dans ces entreprises-là et les promouvoir au poste de responsabilité. En ce moment, nous allions voir qu'à 10 mois, ce sont des gens qui sont dans l'entreprise, qui connaissent l'entreprise, qui connaissent les difficultés de l'entreprise et qui peuvent avoir un programme pour pouvoir faire avancer ces entreprises sur le plan économique, sur le plan de la prospérité. Mais lorsqu'on prend des gens de l'extérieur pour pouvoir les récompenser, pouvoir caser les amis, les frères et ainsi de suite, ben, d'abord, ce sont des novices. Certains d'entre eux vont venir pour apprendre pendant 5, 6 mois. On ne dirige pas une grande entreprise comme l'Onatra en 2 mois et apprendre de comprendre. C'est pas facile, n'est-ce pas? Donc, on va déduire aux 10 mois, déjà 2 mois, et puis dans les 8 mois qui restent, le temps de signer les accords, ben, on serait arrivé à la fin de la transition.
Si vous me permettez, Franklin, avant de continuer, je vais reprendre ce qu'a dit le journal Uhuru ce matin. Moi, je trouve que quelque part, c'est une sorte de démission quand un journal dit, quand quelqu'un dit, Dieu seul sait si les choix portés sur les nouveaux mandataires seront salutaires. Mais non, c'est la responsabilité des Congolais. C'est aux Congolais de vouloir ce qu'il faut faire de ce pays.
Kassongo Mema, est-ce que vous pensez, vous, que cette mise en place qui intervient une année de la fin de la transition est au fait une garantie que toutes les entreprises de l'État vont en faillite bientôt?
Écoutez, moi je pense que la seule garantie que nous puissions espérer de ces nominations, c'est qu'au moins ça satisfait ceux qui sont au pouvoir, et au pouvoir il n'y a pas qu'un seul parti, il faut que je sois bien entendu là-dessus. Bon, si cela peut permettre d'aller jusqu'aux élections dans la paix, je dis tant mieux. Mais qu'on ne soit pas non plus aveugle, qu'on ne demeure pas sourd, parce que nous avons reçu suffisamment de signaux, de suffisamment d'alertes. Aujourd'hui, je crois que la véritable question, et là personnellement, c'est l'analyse que je fais, je n'attends pas dans un an que la RVA, que toutes ces entreprises produisent des bilans satisfaisants. Ça, personnellement, je n'y crois pas du tout. Alors je dis aujourd'hui, pourquoi est-on malgré tout, malgré toutes les alertes, pourquoi est-on allé jusque-là? Je dis simplement par peur. Mais peur de quoi? Et je dis simplement par peur du peuple souverain. Aujourd'hui, les dirigeants politiques ne savent vraiment pas quel sera le résultat des urnes. Et on cherche à s'assurer l'électorat à travers un portefeuille que l'on veut aujourd'hui manipuler. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Nous sommes là en face d'une politique de courte vue. On croit que parce que j'ai un poste qui est à telle entreprise, à la tête de telle entreprise, j'aurai suffisamment d'argent pour aller, excusez-moi le terme, soudoyer la population. En fait, il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi nommer des chefs d'entreprise qui seront virés dans un an? Parce que quand il y aura un vrai Parlement, quand il y aura des dirigeants politiques issus réellement, et je dis bien, je pèse mes mots, issus réellement du peuple, on ne laissera pas n'importe quel tripatouillard à la tête d'une entreprise sérieuse.
Mais
qui appartient au domaine public, au domaine de l'État.
C'est-à-dire que
les personnes que l'on met là savent effectivement qu'elles ne sont pas là pour longtemps.
Ce
qu'elles vont faire.
Vous soulevez là le problème de l'opportunité de cette mise en place. Pour vous, ça ne sert à rien de mettre en place des mandataires qui doivent partir dans une année. C'est ça ce que vous voulez dire?
Ça ne sert à rien dans l'intérêt du peuple, mais ça sert à quelque chose dans l'intérêt de ceux qui vont les mettre là.
Mais il y a quand même une composante qui bénéficie justement de ces statu quo, le PPRD, parce que le PPRD est le seul à avoir et à compter des mandataires à la tête de toutes ces entreprises qui siègent depuis Kinshasa.
Moi je dis simplement, le problème ce n'est pas que je refuse le partage, je refuse que l'on puisse mettre d'autres responsables à la tête des entreprises, encore que personne de sérieux ne me dira que tous les chefs d'entreprise appartiennent au PPRD. Mais enfin bon, qu'on mette des responsables d'entreprise qui proviennent d'autres horizons que des horizons proches du pouvoir, je dis ok et je salue de toutes mes mains. Mais je dis, faisons attention, en mettant d'autres responsables, mettons des responsables qui savent réellement diriger les entreprises. Alors, en termes d'opportunités, je dis, nous sommes à 10 mois des échéances électorales. C'est bien de changer, de mettre de nouvelles personnes, mais ne n'entrons pas dans une nouvelle politique de courte vue en nous disant que nous allons participer à une sorte de conjuration et qui sera malheureusement une conjuration du silence. Parce que là, tous ceux qui vont élever leur voix pour protester, on va leur dire qu'ils protestent parce qu'ils n'ont pas été servis, alors qu'ils protestent parce que peut-être réellement, ils doutent de la compétence des personnes qui auront été désignées.
Alors, que pensez-vous de ceux qui disent que cette mise en place qui a tenu beaucoup plus compte des considérations politiques, pour bien fonctionner, il faudrait justement mise en place aussi de la commission mixte demandée par la communauté internationale pour avoir l'œil justement sur la gestion des affaires économiques du pays?
Vous savez, vous vous rappelez peut-être, je ne sais pas si à ce moment-là vous étiez déjà dans la presse, quand on a nommé un expatrié pour contrôler la banque centrale, un certain Blumenthal, Erwin Blumenthal. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Il y a des généraux qui sont allés menacer. Une commission de contrôle pour aller contrôler qui, contrôler quoi? Il ne faut pas qu'on se leurre. Ce n'est pas en multipliant des commissions. Je crois qu'il y a un problème fondamental, c'est un problème de confiance. Aujourd'hui, on a confiance en personne, on ne fait pas confiance à l'avenir. Tout à l'heure, Claude faisait allusion à une répartie, je crois, du quotidien Ourou de Colette Chomba, qui disait, bon, seul Dieu sait. Et malheureusement, je crois que c'est tout ce que nous puissions dire. Seul Dieu sait qu'est-ce qu'il y a réellement derrière la tête de ceux qui vont aller diriger. Parce que très honnêtement, j'avoue, je vais le dire, malheureusement, c'est pas très journalistique, je doute beaucoup.
On rentre ici au studio. Adélard, que pensez-vous justement de l'idée de cette commission mixte pour justement surveiller la gestion des affaires, surveiller les entrées et toutes les sorties, toutes les dépenses publiques maintenant que pratiquement les entreprises sont envahies par des politiciens?
Franchement, moi, je crois qu'il y a un problème. Il y a deux problèmes, donc. Il y a d'abord un problème de souveraineté d'un État, notre pays. Si notre pays veut garder toutes ses prérogatives d'un État souverain, c'est-à-dire un État qui exerce son pouvoir, sa souveraineté sur toutes ses entités, on ne devrait pas arriver à ce genre de proposition. Ça ne pouvait même pas naître de la tête des gens. Mais il se pose un problème chez nous, et c'est le deuxième problème, c'est qu'on a confiance à personne, comme vient de le dire Kassongo. On n'a pas confiance à ceux qui dirigent aujourd'hui. Et ils sont en train de plus en plus de corroder le petit capital de conscience qu'ils pouvaient avoir en faisant ces nominations, que j'appellerais, excusez-moi le terme, fantaisistes. Ben, si ça choque certains, je rétique, mais fantaisistes. Parce que là, ces gens qui nous donnent, la communauté internationale nous donne de l'argent. Notre économie ne marche pas. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est avec l'argent des autres, la communauté internationale. Mais cet argent, si cet argent n'est pas bien géré, si cet argent que l'on donne n'est pas bien géré, à plus forte raison, l'argent qui vient des entreprises, dont on ne voit pas la destination, mais comment voulez-vous que ces gens qui continuent à vous donner l'argent continuent à vous donner cet argent comme ça, sans exiger des garanties?
Et
Moi,
donc,
j'aime dire.
c'est une raison de plus pour que cette commission soit rapidement mise en place.
Je crois que cette commission, aujourd'hui encore, avec ses nominations, ça me réconforte à l'idée qu'il faut cette commission internationale mixte. Nous allons perdre notre souveraineté, mais nous l'avons déjà perdue depuis longtemps pour d'autres choses. Si ceci peut nous amener au moins à avoir une certaine rigueur dans la gestion, je souhaite même qu'il y ait cette commission, que de ne pas du tout avoir une commission, et que ceux qui viennent puissent continuer à diriger comme ceux qui sont passés, qu'on a mis sur le banc, la presse en a parlé, on les a même extirpés des entreprises sans jamais les juger, sans qu'on nous dise ce qu'ils sont devenus. Si au moins la communauté internationale peut nous aider, je supporte encore qu'on perde la souveraineté pendant 10 mois, mais qu'on nous dise au moins où va cet argent, que nous sachions enfin, nous qui allons voter, parce que moi je vais voter, je ne suis pas un militaire, je vais voter, qu'on nous dise au moins, à ce moment-là nous saurons qui nous pouvons voter, tous ceux qui ont fait la démagogie, nous saurons que ces gens ne sont pas du tout aptes. Comme nous sommes en train de douter de la compétence de ceux qui entrent, donc nous pouvons continuer à douter de la compétence de ceux qui viendront si nous n'avons aucune preuve qu'ils savent gérer.
Claude Kamanga, pensez-vous qu'il faudrait, oui ou non, monter rapidement cette commission pour contrôler justement la gestion?
Vous me permettrez de prendre encore un cas qui a été cité dans la presse le matin. Il s'agissait de la situation qui prévaut dans la partie du Kivu. Et un journal se posait la question, c'était la chose Référence Plus, et il disait, bon, il ne revient pas aux Nations Unies, pas à la MONUC, de s'occuper du rapatriement définitif de ceux qui sèment le trouble dans cette partie du pays, puisque ça fait partie des choses...
Des prérogatives de FADC, c'est ça?
Oui, justement, dont régaliennes, dont reviennent aux Congolais. Bon, il serait bien, disent certains, que la communauté juste internationale vienne ici contrôler quelque part et amener les Congolais, suite à une certaine pression, à un certain droit de regard, à ce que ça avance. Mais moi, je suis désolé, mais je mets ma fierté de Congolais devant. Je dis, oui, mais que font les Congolais eux-mêmes? C'est d'abord leur première responsabilité. On
Mais
dit,
si, par
oui.
exemple, vous venez de déplorer que des politiciens, ils sont maintenant nommés à la tête des entreprises publiques pour justement se remplir les poches en vue d'élections.
Les
S'il n'y a pas
Congolais
un
sont là.
bon organe de contrôle, est-ce que la crainte n'est pas de voir l'argent de cette communauté internationale à la disposition de la transition vidée?
L'argent de la communauté internationale, puisqu'on en parle. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de l'argent au Congo? Il y a un problème d'organisation au Congo. Peut-être que cette organisation n'est pas encore mise en pratique, mais il y a de l'argent. On entend dire qu'il y a du diamant qui sort du pays, il y a ceci, il y a cela, il y a autant de fraudes. Il y a un problème d'organisation de la gestion de l'État dans ce pays. Il y a peut-être encore, si vous permettez que je le dise donc autrement, on a un problème d'un leadership responsable. Et c'est la responsabilité de tout Congolais, que ce soit vous, que ce soit moi ou je ne sais pas qui, tous ceux qui constituent cette sorte d'élite du Congo, ceux qui en sont la conscience critique, il est de leur responsabilité de faire participer la population, de l'informer, de la tenir éveillée. Parce que si la population elle-même n'envisage pas de se protéger, même si la communauté internationale venait ici, il n'y a rien qui va se
Donc
passer ici.
pour vous, c'est inutile de mettre en place
Ce
cette
n'est pas
commission.
inutile.
Donc il n'y
C'est
aura pas
d'abord la
une structure,
responsabilité des
une structure de
Congolais. C'est
contrôle.
d'abord la responsabilité des Congolais. C'est la responsabilité des Congolais de dire que ce qui est en train de se faire ne doit pas se faire et de se mettre debout pour qu'il y ait une sorte de pression qui empêche à ce qu'on continue à gérer le pays de cette manière, qu'on n'aille pas d'impunité en impunité. Et c'est ça. C'est d'abord la responsabilité du Congolais.
2 953 595 électeurs enregistrés à Kinshasa. L'opération a pris fin lundi dernier pour la capitale où la CEI visait le chiffre d'au moins 3 millions d'électeurs. Kasongo Mwema, vous intervenez dans cette tribune de presse depuis Paris, en France. L'opération d'enrôlement et d'identification s'est terminée à Kinshasa. Au moins plus de 2 900 000 personnes enregistrées. Quelle est votre interprétation, votre analyse, du moins, de cette opération à l'étape de Kinshasa?
Bon, je serai très très bref là-dessus, hein, tout au moins en commençant ce thème. Je crois que sur le plan de la statistique, il y a lieu pour ceux qui l'ont organisé d'être satisfaits. Je crois que c'est un succès. On ne peut pas le nier. Même si ça a montré quelques failles, quelques difficultés, quelques problèmes sur le plan de l'organisation, sur le plan de la logistique, mais je crois que c'était important parce que les failles qui ont été vues, qui ont été constatées à Kinshasa, vont être, j'espère, je l'imagine en tout cas, corrigées sur le reste du territoire congolais. Sur le plan politique, c'est un succès également, puisque je crois que la majorité des partis des Congolais vivant à Kinshasa, ou au moins ceux qui sont en âge de voter, se sont présentés pour leur enregistrement, leur inscription. Un succès qu'il faudra sans doute également relativiser dans la mesure où il n'y a pas eu facteur d'union, hein, le facteur d'union qu'on espérait. Certes, peut-être parce qu'il y a eu un certain nombre de malentendus, mais des malentendus qui, à mon avis, peuvent être corrigés. Le processus n'en est qu'à son début. Mais également du fait de l'attitude de certains responsables de formation politique, des leaders qui pourront peut-être se rattraper, n'ayant pas pu être enrôlés, n'ayant pas pu être inscrits à Kinshasa. Mais, quelque part, je me pose également la question de dire. Si certains responsables politiques aujourd'hui n'ont pas fait acte de civisme en allant s'inscrire, ils peuvent se rattraper. Pour ceux qui sont peut-être originaires de X coin, de Y coin,
Mais si.
peuvent aller se faire enrôler dans ces coins-là, mais au niveau de Kinshasa, malheureusement, ils ne pourront plus. Eux ne pourront plus le faire. Ils pourront le faire ailleurs. Mais les résidents de Kinshasa, les personnes qui ne pourront malheureusement pas faire le déplacement hors de Kinshasa, pour ces personnes-là, malheureusement, c'est terminé. Elles ne pourront être ni éligibles, ni électrices. Et je me dis que quelque part là, ça posera beaucoup de questions que, j'espère, nous allons aborder dans la suite de cette thématique.
Mais est-ce que pour les cas des candidats qui voudront bien se présenter au niveau de législative ou de provincial ici à Kinshasa, est-ce que ça ne pose pas aussi un problème?
Tout à fait, ça pose un problème. Et c'est là quelque part que je voudrais fustiger une certaine, je dirais pas naïveté, parce que c'est vrai, c'est la première fois pour beaucoup d'entre nous de participer à un tel processus. Je crois qu'il faut faire la part des choses entre le devoir citoyen de se faire enregistrer et celui non moins citoyen de participer aux élections. Je crois que être citoyen relève de la conscience individuelle et non de la conscience collective et encore moins partisane. Parce que je me dis que lorsque je vais me présenter en tant que citoyen congolais à Songo Mouima, je vais me faire enregistrer. On sait quelque part que j'existe, que je suis en âge de voter, que je remplis les conditions. C'est une première chose. Maintenant, libre à moi d'aller le jour du vote accomplir le devoir. Maintenant, je ne sais pas, malheureusement je n'ai pas bien potassé la loi électorale, je ne sais pas si le vote est obligatoire comme en Belgique ou facultatif comme en France. Mais je dis, peu importe, si je me présente dans les urnes, il n'est pas dit que je vais voter pour X ou Y, Z, lorsque ma conscience me dit que ces personnes-là ne représentent rien du tout, j'ai le droit d'exprimer un vote blanc. Ça existe. Alors je dis, au lieu d'être des objecteurs de conscience perpétuels, laissons le peuple s'exprimer. Et si ce peuple-là s'exprime, il peut s'exprimer. Non pas, je ne sais pas pourquoi on n'a pas confiance. On n'a pas confiance dans cette population. Et je me rappelle, je ne voudrais pas prendre trop de temps, je me rappelle d'une lettre pastorale qui avait été signée par feu Monseigneur Eugène Kabanga, à l'époque archevêque de Lubumbashi. Cette lettre pastorale était intitulée « Je suis un homme ». Aujourd'hui, on a peur parce que les élections seront truquées. Ça, on l'entend dans tous les pays d'Afrique. Ça n'a pas empêché d'avoir des élections au Mali, ça n'a pas empêché d'avoir des élections au Burundi, ça n'a pas empêché d'avoir des élections ailleurs. On a peur de ce que les gens soient manipulés, que les gens soient corrompus. Eh bien, après avoir signé la lettre pastorale, Monseigneur Kabanga a tenu une prêche à Lubumbashi, et il disait, parce qu'effectivement, il voyait circuler les fameux mazés, hein, les billets de 50 zaïres, les billets rouges. On te donne 50 zaïres, on te donne un billet de mazé, prends-le, mais ne vends pas ta conscience. Et aujourd'hui, encore une fois, l'Église catholique nous rappelle, il nous dit, pourquoi avoir peur? Parce que j'ai dit, si j'ai ma conscience pour moi, je ne vais pas voter pour quelqu'un qui fera du mal à mon pays. Alors pourquoi avoir peur? Donc j'ai dit simplement, le processus qui a commencé doit être encouragé, et je crois que le chiffre que tu as cité, Franklin, je crois que le chiffre est très bon. 2 900 000, là on attendait 3 millions, attendez, je ne sais pas si quelqu'un pourrait mégoter à ce sujet. Maintenant, il reste toutes les questions pendantes de ceux qui, pour des raisons ou d'autres, n'ont pas pris part à cette opération, et il faudra les analyser et en tirer les conséquences.
Claude Kamanga Mouton, même question pour vous. Quelle est votre analyse de la fin des opérations enrôlement et identification qui affichent plus de 2 900 000 électeurs enregistrés?
D'abord, peut-être un constat pour faire remarquer que quand l'abbé Malumalu, le président de la commission électorale et indépendante, annonçait la prolongation de ces enrôlements, la grande question qui s'est posée dans la capitale et même dans certains mêmes milieux était la question de savoir si M. Étienne Tshisekedi allait se faire enrôler. On a réalisé qu'il ne s'est pas fait enrôler. Donc il est demeuré dans sa position d'avant, qui justifie par le fait qu'il y a des problèmes d'ordre technique et politique qui font que, par exemple, ce processus n'est pas bien organisé, il y a des possibilités de fraude qui ont été remarquées, et il demandait même qu'on revoie ce qui avait été fait. Aujourd'hui, on remarque, après la fin de cette période d'enrôlement à Kinshasa, qu'il y a 500 000 personnes qui se sont ajoutées au nombre. Ça fait dire à certains gens que voilà, il y a réellement une sorte de divorce entre les leaders politiques et la population. Et d'autres disent, continuons à voir si réellement ça va donner raison à tel ou à tel camp politique. on évolue, on avance aujourd'hui. Après tout ça, on a donc réalisé qu'il y avait aussi une sorte de pression à travers les médias, articles dans Forum des As, dans le Soir de Belgique, on parlait de l'enrôlement de M. Tshisekedi, il n'en a pas été le cas.
Alors il faudrait apprécier le déroulement de l'opération par l'enrôlement ou non de Tshisekedi, d'un leader politique.
Ou, pas nécessairement.
On ne va pas lier justement l'opération par rapport à elle-même.
Non, on ne va pas lier le sort de tout un pays à celui d'un seul individu. Tshisekedi, c'est une opinion. Tshisekedi, c'est une opinion comme une autre. Mais Tshisekedi n'est quand même pas représentatif comme n'importe quel autre Congolais par ce qu'il représente, par son poids.
C'est-à-dire, vous voulez dire que la non-participation de Tshisekedi remet en cause l'opération de Kinshasa?
Loin de là, ce n'est pas ce que je dis. Je fais remarquer, je constate ce qu'il y a eu. Et c'est toutes ces sortes de pressions qu'on a remarquées à travers la presse autour de sa personne, de son parti. Et on réalise également, comme le disait Mouema, qu'il y a toujours cette peur. Les gens disent, il va y avoir des élections truquées. On a peur de ceci, on a peur de cela. Et d'aucuns disent même, laissons l'organisation de ces élections aux Nations Unies, comme ça avait été le cas juste au Timor oriental ou ailleurs. Bon, Kinshasa, disons peut-être qu'aujourd'hui c'est terminé.
Mais c'est une réussite ou pas, justement, que c'est terminé à Kinshasa?
Une réussite. On constate qu'il y a eu un très grand nombre de gens qui se sont justement enrôlés dans une ville de 7 millions d'habitants. Et quand on sait que près de la moitié de la population congolaise est constituée d'enfants, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas droit à cet enrôlement, on peut dire que c'est un succès. Attendons voir comment ça va se passer après, parce que ce n'est pas la première fois que le Congo vit ce genre de situation. Tout cela sera lié à quoi? À des données du terrain qui tiendront de la manière dont la transition va être justement gérée, dont cet enrôlement va se faire dans la partie orientale du pays. On entend dire que déjà dans l'Ituri, il y a toute une série de récriminations qui se font. Dans le Kivu, il y a des interrogations qui s'élèvent, ceux qui estiment que une grande question, c'est de savoir comment va-t-on gérer le problème des nationalités dans ce qu'on appelle justement le Nord Kivu.
Ça, ce sont des problèmes à venir.
C'est des problèmes à venir, mais il faut déjà y réfléchir maintenant, en parler maintenant que le problème se fait remarquer, que les gens l'évoquent.
Adélard Oboulokwes, quelle est votre analyse de la fin des opérations d'enrôlement et d'identification?
Je vais être bref. Je suis satisfait personnellement de ces opérations parce que par rapport aux estimations, on avait parlé de 3 millions, même si on avait parlé de 3 millions et demi, atteindre plus de 2 900 000, c'est pas peu de choses. Et même si il y aura des problèmes après, on doit détecter les doubles enregistrements, on doit détecter des fraudeurs, ainsi de suite, je ne crois pas que ceci va entamer la moitié de ceux qui se sont enrôlés. Et donc, par rapport aux estimations, je dis que c'est très important qu'on ait atteint ce nombre. C'est également très important parce que c'est la première fois, d'autres ont tenté avant, ils ont parlé élections, sans arriver à organiser une vraie opération d'enregistrement et d'enrôlement des électeurs. Et c'est la première fois qu'on arrivait à enregistrer les gens et à les enrôler. C'est très important pour le pays. Mais je constate également, il y a une semaine, il s'est passé en Ouganda, n'est-ce pas, un référendum pour savoir si le pays allait adopter, si la population voulait le multipartisme ou pas. L'opposition politique en Ouganda n'a pas participé, n'est-ce pas, à ce scrutin. Mais toute la population a dit oui au multipartisme. Donc j'ai constaté qu'à travers certains leaders politiques, il y a une sorte de schisme entre eux et la population qui ne les suit pas toujours. Et moi donc je dis, c'est maintenant le devoir de la société civile, n'est-ce pas, de reprendre de ce flambeau, même partout où parle Ruth Kamanga qu'il y aura des problèmes ou pas, que la société civile conscientise les gens, pour que les gens aillent se faire enrôler, aillent se faire identifier, pour qu'au moins nous puissions cesser avec ce pouvoir qui naît de nulle part, et qui nomme les gens à la tête d'entreprise comme ils veulent. Non, que nous puissions mettre des gens capables de pouvoir mener ce pays à bon port. Sinon, nous parlerons de souveraineté, mais elle ne sera jamais une souveraineté qui sera palpable.
Mise en place de mandataires des entreprises publiques, La fin des opérations de roulement et d'identification à Kinshasa, deux sujets retenus dans cette tribune de presse qui a reçu Claude Kamangamoutan, directeur de publication de l'agence Congo Actualité, Adelard Oboulokoef, rédacteur en chef de Intercongo Media et membre de SIFI International, une agence de presse, Kassongo Mwema Yamba Yamba, journaliste à RFI. Nous remercions les auditeurs de Radio Kati et des Dialogues entre Congolais d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un premier numéro de Dialogue entre Congolais.